9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Envie d'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et Cheese 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le cheese.ca et en balado-diffusion.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de Cheese 94.3. Mon nom est Marc-Antoine Belzile et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michel Maltais. Bonsoir.
Bonsoir.
Michel Maltais a enseigné l'infographie au Centre de formation des bâtisseurs à Beauceville. Il a aussi organisé les Olympiades canadiennes de la formation professionnelle qui permet aux jeunes Québécoises et Québécois de relever le défi de la compétence et de devenir les meilleurs dans leur discipline. Mais ce soir, nous avons le plaisir de le recevoir pour la sortie de son livre « Cosmos, une aventure québécoise au temps du rock progressif » aux éditions Septentrion, qui est sorti le 4 mai dernier. Ce récit que j'ai dévoré par ailleurs nous permet d'en apprendre davantage sur le monde de la production de spectacles au Québec durant les années 70 et sur la compagnie qui a produit les spectacles de Pink Floyd, Gentle Giant et Genesis au Québec, pour ne nommer qu'eux. Donc, pour commencer, tout d'abord, qu'est-ce qu'était la compagnie Cosmos ou même l'aventure Cosmos, Michel Maltais?
C'était une compagnie qui, en même temps, tu sais, n'en était pas une au sens où on l'entend généralement, c'est-à-dire avec président, directeur, comité d'administrateur, tout ça. C'était plus un mouvement, une espèce de regroupement de jeunes, de début de la vingtaine, qui voulaient un peu transformer un peu la façon de présenter les artistes, de présenter les spectacles, aussi de présenter des artistes que les compagnies traditionnelles ne présentaient pas parce qu'ils ne les connaissaient pas ou ils n'en voyaient pas la rentabilité. Et c'était un peu ça. Au départ, c'était un genre de regroupement de jeunes de Québec. On sortait du cégep, tout ça. Et on pourrait même dire qu'on était une OBNL, en fait, un genre d'organisme à but non lucratif, parce que notre intention n'était pas de devenir de riches producteurs ou tout ça. Notre intention était de faire venir des musiciens, des groupes qu'on aimait. Et c'était un peu égoïste pour nous, puis en même temps pour en faire profiter des jeunes et qui finalement étaient eux aussi peu fortunés que nous. Donc, on voulait toujours maintenir les prix le plus bas possible, etc., etc., pour qu'il y ait le plus de gens qui puissent venir au spectacle. Fait que c'était un peu ça, c'était une espèce de groupement un petit peu informel au début, mais tranquillement qui s'est structuré un petit peu avec les années, les mois, les années, tout ça. Ouais.
Excellent. Et justement, vous parlez de faire profiter la jeunesse des spectacles de rock progressif. Justement, qu'est-ce qui donne l'envie à un groupe de jeunes dans la vingtaine de se réunir ensemble puis de produire des spectacles rock à Québec, entre autres?
Ben, écoute, il y avait eu Woodstock en 69, qui était un super festival un peu extraordinaire qu'il y avait eu aux États-Unis. Puis on était tous un petit peu influencés par ce mouvement-là. Il y avait d'autres spectacles aussi un peu produisait, qui avait lieu comme ça aux États-Unis en plein air. Et tout à coup, comme ça, une journée, on était dans la cafétéria du cégep de Limoilou avec des amis, des copains. Puis le Soleil publiait la nouvelle qu'il y aurait un immense festival pop à Mansou. On était à l'été 1970. Et on a pouffé de rire, on n'en revenait pas. On s'est dit, ah, c'est où Mansou? C'est quoi cette histoire-là? Puis finalement, on a suivi un petit peu la saga qui s'entamait avec ce festival pop-là. Puis on s'est rendu compte que c'était un truc un peu tarabiscoté, qu'il y avait possiblement un petit peu de mafia à travers ça, que c'était finalement que c'était un peu une arnaque pour les jeunes avec des prix de billets d'entrée qui étaient très dispendieux puis tout ça. Puis là, bon, on a voulu réagir à ça. Puis on s'est dit, bon, OK, on va organiser un festival pop dans la cour du cégep en plein air à l'été, au mois de juillet. Et ça a été un peu notre première expérience, si on veut. Puis on s'est dit, ben, on va organiser ce festival pop-là un peu pour réagir à Mansou, qu'on considérait comme un gros festival capitaliste, si on veut. Puis le coût d'entrée, on va mettre ça pas cher, c'était 1$. Puis là, on s'est trouvé quelques artistes, L'Infonie, Louise Forestier. Puis on voulait aussi donner une petite dimension politique à cet événement-là, parce qu'à l'époque, il faut se mettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Tu sais, des jeunes aux cheveux longs qui jouaient de la guitare dans les parcs, mettons au parc Montmorency ou dans des parcs de la ville de Québec, c'était pas tellement apprécié. Puis les jeunes se faisaient souvent dire « partez de là », etc., « allez jouer chez vous », puis tout ça. Ouais. Et là, ben, on voulait montrer un petit peu à l'administration municipale que les jeunes pouvaient se regrouper quelque part paisiblement puis faire un peu de musique. Puis finalement, que c'était pas une nuisance à l'ordre public tant que ça. Alors, on voulait vraiment créer quelque chose et puis c'est parti comme ça, cet été-là. On a dit, OK, on fait ça. Puis en même temps, ben, on va faire venir des groupes un peu marginaux, parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, L'Infonie avec Raoul Duguay puis Walter Boudreau, c'était un groupe de musique complètement éclaté, qui n'allait pas jouer dans les salles officielles puis tout ça. Louise Forestier, plus, c'était plus côté chansonnier, plus accepté puis tout ça. Alors là, ben, on a fait ça, ça a fonctionné. Puis là, on s'est dit, bon, ben, OK, allons-y, c'est intéressant, ça nous allume si on veut. En même temps, ben, on a appris, on a fait plein d'erreurs en produisant ça. Mais au moins, ça a été, on est rentré dans notre argent, on avait financé ça avec l'argent du cégep, du journal étudiant, une balance d'argent du journal étudiant, certains petits revenus qu'on avait, les quelques-uns qui étaient impliqués dans ça. Puis c'est un petit peu ça. Puis ça, ben, l'air de rien, ça nous a donné la piqûre, parce que ça a été une belle soirée, ça a été agréable, les gens ont aimé ça. Puis on a eu des belles critiques, même dans les journaux, puis tout ça. Ça fait qu'on s'est dit, OK, peut-être que ça pourrait être un projet éventuel. Ça fait que c'est un peu ça, si on veut, qui a commencé à semer la petite graine de Cosmos, mais qui n'était pas Cosmos à ce moment-là. C'était juste un groupe d'étudiants du cégep, un petit peu du journal étudiant, de l'association étudiante, puis tout ça, puis de la gang qui s'occupait de la radio étudiante aussi. C'était un peu tout le monde avait participé à ça. Mais disons qu'avec Jean, mon ami avec qui j'ai fondé Cosmos après, ben disons qu'avec Jean, on s'est impliqué beaucoup plus, là. On a vraiment pris en charge la production de l'événement, si on veut.
Et question de se mettre dans l'ambiance cosmique, dans l'ambiance cosmos, allons-y avec un premier extrait musical.
Thank you.
On est de retour avec notre invité Michel Maltais. Vous venez d'entendre la pièce Gladwin du groupe Mashmakan, une pièce qui a accompagné notre invité dans un moment particulièrement difficile. Parlons-en, en fait, Monsieur Maltais, parce que lorsqu'on lit votre livre, on se rend compte rapidement que ça ne concerne pas uniquement Cosmos. Vous parlez beaucoup de votre vie personnelle, vous parlez de vos premiers amours, vos deuils, vos prestations musicales à la fin des années 60. Et vous parlez aussi de cette chanson-là, Mashmakan, Gladwin, qui vous a accompagné lors de votre arrestation en octobre 70. Comment avez-vous vécu ces événements historiques?
Il y a beaucoup de choses dans votre question. Je vais essayer d'y aller par morceaux. Quand on sort de l'adolescence, les amitiés sont souvent déterminantes. Puis, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis rendu compte que finalement, mes amitiés avec Alain Paré, qui était mon collègue avec qui je faisais duo chansonnier, m'a un peu initié à la musique ou m'a fait découvrir la musique. Puis, avec Jean, plus tard, au journal étudiant, on a vraiment développé une amitié qui était plus orientée vers l'engagement, vers l'action. Puis les Misanthropes, ça c'était notre groupe de chansonniers, c'est assez drôle quand je pense à ça, parce qu'un misanthrope, finalement, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir personne, puis nous autres, on avait réussi à faire les misanthropes. Alors là, on en riait souvent, et on se disait, ouais, mais finalement, deux misanthropes, peut-être qu'ensemble, ça donne un philanthrope. Et j'ai découvert l'univers de la musique comme ça avec Alain, puis on faisait des chansons qui étaient engagées, un petit peu ironiques, puis tout ça. Puis avec Jean, on a fondé, si on veut, un journal étudiant régional qui s'appelait le 2 mai, qui était le regroupement du journal de Limoilou, de Sainte-Foy et de Xavier Garneau. Et là, en mettant nos ressources ensemble, on pouvait avoir un vrai journal imprimé sur une vraie presse, puis qui avait l'air d'un journal, qui n'avait pas l'air d'un paquet de feuilles imprimé sur une presse Gestetner, puis qui avait l'air finalement d'une espèce de paquet de tracts brochés ensemble. Alors là, ces deux amitiés-là, si on veut, ça fait décoller un petit peu ma vie. Puis avec Jean, on avait fait le festival pop de Limoilou. Puis tranquillement, on surveillait un petit peu le spectacle. Puis on a vu Mashmakan à un moment donné, un soir, à l'Université Laval. C'était leur première soirée à Québec où ils venaient jouer. Puis on avait adoré ce spectacle-là. Puis on s'est dit, hey, on pourrait peut-être organiser un spectacle avec eux autres au Cégep de Limoilou. Puis là, est arrivée la crise d'octobre, qui a été une expérience, comment dire, à la fois humiliante et frustrante. Cueilli chez tes parents en pleine nuit, tondu, intimidé, douché, pas d'accusation, pas d'avocat, isolé tout seul, au gruau pendant 3 jours de temps. Disons que ça t'amène à poser un regard sur beaucoup de choses, sur la démocratie, le pouvoir, les gens qui exécutent le pouvoir. Puis tu réfléchis un peu sur toi. Puis disons qu'à travers tout ça, la chanson Gladwin de Mashmakan, c'est une chanson qu'on fredonnait des fois au cégep quand on était ensemble. Puis quand je me suis ramassé isolé tout ça, là, en cellule, puis tout ça, Jean, qui avait été lui aussi évidemment accueilli, comme à peu près tous les jeunes qui étaient un peu contestataires ou dans la région de Québec, s'est mis à siffler cette chanson-là. Et en attendant la chanson, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah, OK, je ne suis pas tout seul dans ce truc-là, il y a d'autres personnes. Puis ça nous a comme adouci un petit peu. Je me suis dit, bon, OK, il y a encore de la musique à travers cette noirceur-là. Puis c'est ça. Fait que la chanson a accompagné un petit peu pour rendre le séjour, mettons, moins pénible. Peut-être imaginer une suite plus heureuse, peut-être à ça. Ouais. Ouais.
Oui, parce que c'est ce qui m'a touché, moi, dans le livre particulièrement, c'est de se rendre compte à quel point cette chanson-là vous a rendu solidaire dans ces événements particulièrement sombres et comment que vous avez passé à travers ça. Comme, c'est comme une bouée à la mer pour vous, cette chanson-là, que de la manière que vous l'écrivez dans votre livre, c'est particulièrement touchant. Et justement, à la suite de ces événements-là, vous dites que Cosmos a été un peu une conséquence directe des événements de la crise d'octobre. Comment la création de ce groupe-là est venue poser un baume sur cette blessure?
Ben, écoute, c'est les temps, à cette époque-là, je veux dire, quand on est sorti de cette histoire-là, on n'a pas eu un comité d'accueil, on n'a pas eu des spécialistes. Disons qu'on a été sorti, puis ça a été bon, ben là, salut, vous autres, vous là, bon, continuez vos cours, puis comme si de rien s'était passé, mais pour nous, il s'était passé beaucoup de choses. Et disons qu'on a senti ensemble le besoin d'un petit peu de se regrouper, puis d'essayer de trouver un sens un petit peu à tout ça, et sans tomber dans le désespoir, dans la tristesse, dans n'importe quoi, ou dans la révolte extrême, puis tout ça. Disons que, fait que là, ben, on avec un ami qui avait été aussi cueilli à ce moment-là, ben, on s'est réunis, on a quitté la ville, on a genre loué une petite maison à Saint-Jean-Chrysostome, on s'est réunis là, puis là, on a écrit un soir où on écoutait du groupe Pink Floyd, on a écrit un manifeste. On s'est dit, bon, ben là, regarde, on fait un manifeste pour écrire, finalement, puis pour dire qu'on est encore là, qu'on est blessé, mais que on va trouver des solutions. C'est un peu ça. Puis on a écrit ce qu'on appelait notre manifeste cosmique total, et qui était en fait... on voulait regrouper un paquet d'organismes qui étaient dans le milieu des arts, puis tout ça, pour peut-être éventuellement se trouver une salle pour produire des spectacles qui pourraient servir pour des poètes, pour des acteurs, pour un peu tout le monde, un genre de petite salle multidisciplinaire, puis qui correspondrait un petit peu à notre vision du spectacle. Et ça a débuté comme ça, puis en même temps, on avait toujours notre projet de faire venir Marsh McCann. Alors là, on a fait le manifeste de Cosmos. En fait, il n'y avait pas de nom. On a trouvé le nom en écrivant le manifeste. On a dit, on va le signer Cosmos. Et puis là, on a trouvé le titre. On s'est dit, bon, ben, ça s'appelle Manifeste Cosmique Total. Puis, en même temps, ben, on avait réussi à rejoindre l'agence qui faisait le booking de Marsh McCann. Et puis, on a réussi à produire... après certaines tergiversations, avoir Marsh McCann pour le présenter au Cégep Limoilou. Puis là, ben, pour nous, ben, c'est sûr que ça a été un réel plaisir que d'entendre, les entendre jouer de la Gwen à ce moment-là. C'était comme si, OK, on faisait une boucle qu'on avait perdue, on rattrapait quelque chose. Ouais. C'est ça.
Oui, puis d'ailleurs, vous parlez du nom Cosmos. On apprend dans le livre que vous avez décidé de changer la lettre C de Cosmos pour K pour un hommage ou du moins une référence à Donald K. Donald. Est-ce que c'était un modèle à suivre ou plutôt l'antithèse de Cosmos, cette compagnie de production-là montréalaise?
Et c'était un peu les deux, finalement. C'était un certain modèle dans le sens que on s'est dit à ce moment-là, nous aussi, on va faire venir des grands artistes. On ne sait pas comment, on ne sait pas qui, mais on va le faire, puis à notre façon. Puis c'était une manière de dire aussi, une façon, ben, sans le dire vraiment, là, de se le dire entre nous, d'être un petit peu frondeur, puis de dire, ben, on ne sera pas toujours des sous-traitants pour la grosse entreprise. On va faire affaire, nous autres aussi, directement avec les agences américaines, ou peu importe. Alors, il y avait ce modèle-là, parce qu'on s'est dit, ben, quand même, ils font venir des maudits bons groupes aussi, mais on va le faire nous aussi. Puis peut-être aussi une certaine antithèse, dans le sens que, évidemment, que On n'avait pas pignon sur rue à Montréal. on avait pignon sur rang à Saint-Jean-Chrysostome à ce moment-là. On n'avait pas d'argent. On était sous-financé. On dépendait totalement du succès d'un spectacle pour en produire un autre. On savait ça. Donc, oui, puis c'est sûr que peut-être notre côté marginal et cheveux longs, et etc., n'était pas tout à fait conforme. Mais l'idée du cas, pour nous, c'était pour rigoler. C'était comme une petite blague interne. Là. Puis en même temps, un petit kick pour se dire on va faire quelque chose, mais n'en parlons pas trop. Ouais.
Puis malgré cette situation financière, disons, particulière et cette manière de faire un petit peu à contresens, dès 1971, le groupe Cosmos a pour objectif de faire venir Pink Floyd pour un concert à Québec. Comment ce rêve qui semblait inatteignable est devenu le carburant pour votre compagnie de production?
Ben, écoute, c'est... pour nous, Pink Floyd, c'était le summum du rock marginal. Non commercial, impeccable sur scène, produisant toujours du son de qualité, peu importe l'endroit où il jouait. Un groupe qui respectait beaucoup le public. Pour nous, c'était, on s'informait, de temps en temps, on ramassait un journal anglais, là, le Melody Maker, puis on regardait un petit peu les critiques de spectacle, puis on avait vu que Pink Floyd, en Angleterre, c'était, même s'il n'était pas extrêmement populaire, il y avait des groupes plus populaires. David Bowie était 100 fois plus populaire que Pink Floyd à cette époque-là, puis tout ça. Et par contre, Pink Floyd réussissait toujours, eux, à faire des spectacles de qualité où tout était, fonctionnait, c'était impeccable. Puis là, pour nous, c'était un petit peu ça. On s'est dit, écoute, ils font une musique super anticommerciale, mais ils sont hyper populaires. Puis, on a eu la chance qu'à Québec, durant cet hiver-là, il y avait la LS Radio qui existait sur la Rive-Sud, la station CFLS qui avait été un peu pris d'assaut par des animateurs très ouvert à la musique puis aux expériences de toutes sortes. Et là, on s'est dit, ouais, écoute, Pink Floyd tourne à CFLS des fois, ça tourne, bon, OK, c'est quand même pas pire. Puis là, on s'est dit que finalement, peut-être qu'on pouvait se trouver, peut-être qu'on pouvait penser les faire venir et que ce serait pas un groupe qui serait dans la mire des gros producteurs, finalement. Et ça s'est avéré parce que Pink Floyd était représenté par une agence, pas la grosse agence Premier Talent, là, par une agence un petit peu secondaire aux États-Unis. Puis on a eu un petit peu, c'était possible peut-être pour nous d'avoir accès, disons, à cette petite agence-là qui s'appelait AFE. Là. Et c'est ça. Alors, là, on s'est dit, voyons, on a des chances, mais on n'en parle pas, puis on travaille, puis on fait d'autres choses en attendant. Puis là, on s'est dit, en attendant, on va refaire quelques spectacles avec des groupes. Là, on a produit un paquet de petits groupes un peu marginaux, dont un spectacle avec un paquet de groupes francophones au Cégep Limoilou, puis toutes sortes de choses comme ça. On a travaillé avec la LS Radio pour la Nuit de la couleur, qui était un événement culturel un peu éclaté, puis tout ça. Donc, on s'appliquait dans plein de choses en espérant, à un moment donné, avoir un retour d'appel là, de l'agence pour nous dire « Ouais, peut-être que ça pourrait fonctionner. » Mais c'est sûr que pour nous, il n'y avait rien que ça. Là. C'était comme... Mais on était prêts en même temps à faire probablement un paquet de concessions ou de pour être capable pour nous de faire ce groupe-là. Ouais.
Oui, puis vous parlez tantôt en fait des autres spectacles que vous avez produits entre-temps. Vous avez produit le groupe Cactus au Festival d'été, vous avez produit également Boomerang à Lévis. Puis finalement, le rêve inatteignable a été atteint puisqu'à l'automne 1971, Cosmos produit les premières prestations de Pink Floyd à l'est du Canada, à Québec et à Montréal. Le spectacle est une réussite dans les deux villes, mais l'est particulièrement dans la ville de Québec. Pourquoi ce spectacle rock est important pour l'histoire culturelle de la ville de Québec?
Ben, écoute, je pense que c'est la première grande réussite d'un spectacle rock d'envergure à Québec. Il y avait eu une tentative de par un Peter Starr à l'été, un petit peu avant. Pink Floyd, c'était en novembre, donc je pense que c'était en juillet. Et de présenter Deep Purple avec Rod Stewart dans un gros spectacle au Colisée. Mais il y a eu des imbroglios. Finalement, Deep Purple avait refusé de jouer. Rod Stewart avait joué, les gens étaient mécontents, ça avait mal tourné finalement, donc ça avait été un échec, si on veut, autant pour le public. Puis là, pas longtemps après, on est arrivé avec ça. Puis le spectacle de Pink Floyd a été vraiment un grand succès à Québec. Et, il y avait quand même plus de spectateurs à Québec qu'à Montréal. La salle était un peu plus grande à Québec, d'ailleurs. Et ça a été, en même temps, pour produire ça, ce spectacle-là, on a fait du financement populaire. On allait voir, on ramassait du financement à coût de 200 $ en donnant deux billets de promotion, puis en disant, ben, on va vous remettre votre 200 $ le lendemain du spectacle. On a fait plein de trucs comme ça. Écoute, il y avait des gens impliqués là-dedans, là, dans la ville, puis tout ça, là, c'était phénoménal. Je pense que ça a créé une espèce de petit mouvement, puis ça a créé quand même un impact aussi parce que le Cahier des Arts du Soleil, on a fait sa première page du samedi, et c'était la première fois qu'un groupe rock avait un traitement pareil en première page d'un grand média à Québec. Je pense qu'il est important aussi parce que faut comprendre que les agences, il était vraiment pas chaud de nous laisser produire Pink Floyd, même si c'était une petite agence. Là. C'était comme, ils nous avaient même clairement dit, à Québec, c'était, vous allez vous casser la gueule. Tu sais, c'était sûr pour eux qu'on ferait un flop total. Là. On aurait peut-être 1000 personnes, puis on perdrait beaucoup de sous. Et ça a comme positionné Québec comme une ville où on pouvait réussir des choses. Oui. Ça fait que je pense que c'est important pour ça, puis il faut dire aussi que c'est la seule apparition de Pink Floyd à Québec, même si Roger Waters est venu plusieurs fois après, là, ça reste le seul et unique spectacle du groupe Pink Floyd dans notre ville. Et je pense que c'est ça. Je pense que l'importance est beaucoup au niveau de la prise de conscience, autant des gens de Québec que des promoteurs, que Québec pourrait être une ville de musique.
Oui, tout à fait. Une ville de musique, justement, qui est capable de recevoir des spectacles d'envergure comme celui de Pink Floyd, un spectacle à grand succès. Donc, c'est déjà le temps de notre pause publicitaire, mais juste avant, laissons-nous avec Pink Floyd, Astronomie dominée. Donc, à tout de suite.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. À l'avant-garde!
Chérie J'arrive débarque dans vos oreilles tous les jours de 16h à 17h30 pour vous faire découvrir la scène culturelle et artistique de Québec.
Collabos, chroniques, entrevues, tout ce qu'il te faut pour être à l'affût des nouveautés musicales, théâtrales, littéraires, dansées, exposées. Voyez ce qu'on veut dire, là? Chérie J'arrive par Gabriel Morissette
et Philippe Duchesne en semaine dès 16h à Chiz 94.3.
Tu sais, cet ami gossant qui, dans toutes les conversations, finit par dire « C'est comme dans le livre d'un tel ou dans le film d'un autre. » Ben, la planète des sages, c'est cet ami en trois exemplaires qui prennent une heure d'espace radio pour jaser d'un tel. Chaque semaine, le mardi à 10h, on convoque une figure populaire et on approche naïvement son œuvre. On se retrouve sur la planète des sages à Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire avec Michel Maltais qui nous parle de son livre Cosmos, une aventure québécoise au temps du rock progressif. Donc, juste avant la pause publicitaire, vous nous racontiez en fait le succès des deux spectacles de Pink Floyd à Montréal et à Québec. Et étonnamment, lorsqu'on lit le livre, on se rend compte qu'après ces deux succès, vous décidez, le groupe Cosmos, de se séparer. Qu'est-ce qui a mené à cette prise de décision-là?
Ouais. On était vidés émotivement après 12 mois de montagne russe. Tout avait été un petit peu trop vite. On avait quand même organisé plus de 14 concerts, toujours en risquant nos dernières scènes à peu près toutes les fois. On avait déménagé de Saint-Jean-Chrysostome, après ça à Saint-Isidore. Et on était finalement aussi peu structuré. Il y avait beaucoup de monde autour de Cosmos puis tout ça. Puis certains voulaient voyager. C'était le début un peu de la mode des voyages là, pour soit en Asie ou soit juste en Europe puis tout ça. Il y avait beaucoup. Certains voulaient faire autre chose. Puis peut-être aussi, je pense qu'on pensait que là, regarde, c'était mission accomplie. Là. Notre objectif, on l'avait atteint. Là. Puis on avait fait un succès avec Pink Floyd. Même, on l'avait surpassé parce qu'on l'avait fait à Montréal aussi. Donc, c'était comme si c'était passé trop de choses. On n'était pas capable de continuer là, directement. Puis il y en a vraiment qui avaient besoin là, de Jean Madou. Ils voulaient vraiment... Sortir un peu de ce rythme-là. Puis, fait que là, on a décidé, on s'est dit, on arrête, mais les gens qui vont lire le livre vont le voir. Là, on garde peut-être une petite porte ouverte au cas où on aurait le goût de reprendre un petit peu l'action, c'est ça, ouais.
Et justement, vous avez bien fait de garder la porte ouverte parce que lorsqu'on lit le livre, on se rend compte qu'il reste encore 100 pages à l'ouvrage. Donc, on se doute que Cosmos va reprendre vie. Et effectivement, c'est le cas. C'est à l'écoute, en fait, de l'album Nursery Crime de Genesis que votre désir de réanimer le groupe Cosmos arrive. Vous spécifiez d'ailleurs que c'est au magasin de disques Mélodis, situé sur la rue Saint-Jean, que vous faites cette découverte. À quel point les magasins de disques indépendants de la ville de Québec ont contribué à l'éducation de cette musique particulière-là?
Ah, énormément. Énormément. Particulièrement Denis Huot de chez Mélodis. Denis, il était avec nous au cégep de Limoilou. Il était, je pense, une année plus âgé que nous, mais il s'occupait de la radio étudiante déjà à ce moment-là. Puis c'était un mélomane averti. Puis... on s'était connus là, et puis à un moment donné, ben Denis a décidé de commencer l'université, il a arrêté, puis il a acheté son petit magasin de disques. Il a acheté un magasin qui s'appelait La Ballerine, puis il l'a transformé en Mélodisque. Puis Denis vendait des disques importés qui n'avaient pas été encore distribués par les compagnies nord-américaines. Alors, il y avait des disques d'artistes... un paquet d'artistes, que ce soit Van der Graaf, Generator, Genesis, entre autres, et plusieurs autres. Et c'est sûr que je dirais que aller chez Mélodis, à l'époque, c'était comme aller faire un petit tour en Angleterre. Parce que là, tu déroulais les albums, puis là, tu voyais des noms de groupes dont tu n'avais jamais entendu parler. Tu voyais plein de choses que... Oh! Puis Denis était formidable parce qu'il nous permettait d'écouter les disques avant de les acheter. ça se faisait pas encore dans un magasin de disques à ce moment-là, mais lui, il faisait ça. En fait, probablement qu'il les ouvrait pour lui-même, pour les écouter, mais il savait très bien qu'il arrivait avec des choses inconnues. Et puis, disons que c'est sûr qu'il y a eu un rôle très important, même qu'on on a vendu des billets à travers son magasin. Puis après ça, ben, il y a eu l'apocalypse. Denis s'est fusionné, a fusionné son magasin avec la Meuse. Et c'est sûr que ces magasins de disques-là ont permis de faire connaître une musique que les gens n'auraient pas connue ou qu'ils auraient connue 2, 3, 4 ans plus tard. Et ça, ben, je dirais que pour Cosmos ou pour des producteurs comme nous, c'était extraordinaire parce que c'était comme si on pouvait écouter qu'est-ce qui venait de sortir d'Angleterre directement, puis on pouvait se faire une opinion, puis peut-être éventuellement risquer c'est de faire venir ces groupes-là.
Oui, parce que c'est ça, lorsqu'on lit le livre, on se demande même jusqu'à quel point vous semblez le groupe Cosmos tellement avant-gardiste au courant des tendances prochaines, parce que c'est pas nécessairement encore des groupes qui sont populaires, mais vous avez toujours été quand même bon dans vos goûts, parce que ce sont tous devenus des groupes qui ont marqué leur époque. Puis je crois que justement, les disques importés de cette époque-là ont probablement aidé le groupe Cosmos à être au courant de ces nouvelles tendances musicales-là. Puis en fait, c'est donc au mois de juin 1972, excusez-moi, que Cosmos reprend du service auprès des agences. À ce moment-là, le groupe veut produire un spectacle de Gentle Giant en tête d'affiche à Québec. À quoi ressemble la scène musicale à ce moment-là à Québec? Est-ce que d'autres compagnies de production ont copié votre modèle d'affaires pendant votre pause?
Ouais, un peu, mais c'est sûr que le grand groupe de Montréal, Décodé, Donald K. Donald, s'est risqué à présenter des spectacles au Colisée durant l'hiver puis au printemps, mais ça n'a pas toujours été des succès parce que le Colisée, c'est une salle difficile, ça prend du son extraordinaire pour que ça soit intéressant, puis ça prend... Alors, il y avait... En fait, Donald K. Donald, il reproduisait un petit peu au Colisée ce qu'il faisait au Forum, donc c'était ça un peu. Et puis, il y a eu quelques groupes. Il y a eu Roger Labadie, qui était associé avec nous quelques mois dans Cosmos, qui a parti une petite compagnie de production aussi à ce moment-là. Ça s'appelait les Productions Parallèles. Et ils ont présenté des groupes québécois un petit peu à Québec, dont Agatha, William D. Fisher, etc. Et disons que le milieu, ben, il était comme un petit peu... c'est ça, c'était Donald K. Donald qui s'installait à Québec, puis peut-être une autre petite compagnie qui essayait de tirer un petit peu son épingle du jeu là-dedans. Puis quant au festival d'été, à qui on avait fourni le groupe Cactus l'année de l'avant... Ben, c'est sûr que là, le festival d'été, ben, disons qu'il est peut-être pas trop chaud à refaire un groupe rock dans le cours du petit séminaire de Québec. Alors là, ils sont allés avec André Gagnon, mais ils ont quand même produit un spectacle dans le cours de la Petite Bastille, un spectacle rock québécois. Mais disons que c'était comme un peu... c'est ça, on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Puis nous, ben nous non plus, on ne savait pas ce qu'on allait faire parce qu'on voulait bien recommencer, mais on ne voulait pas faire n'importe quoi. Puis, on s'est rendu dans une agence, dans une grosse agence de New York, pour se faire dire que just too bad, les garçons, on a déjà notre producteur de Montréal qui produit à Québec, alors oubliez ça, Led Zeppelin, Deep Purple, n'importe quoi, là, vous n'aurez pas ça. Puis, en fait, on a par hasard, trouver dans le fond de leur tiroir un petit groupe qu'ils connaissaient même pas eux-mêmes, qui s'appelait Gentle Giant. Et là, on a dit, ah, ce groupe-là, on veut le faire venir. Alors, disons que c'était un peu ça. On n'avait pas de plan, finalement. On a trouvé Gentle Giant caché dans le fond d'une agence. Et on s'est dit, oui, OK, ils vont probablement vouloir venir. Et on a risqué, on a fait une offre. On s'est dit, bon, ben, écoutez, on fait une offre, mais voilà.
Oui, puis c'est justement au mois d'octobre 1972 que vous avez produit Gentle Giant à Rimouski, Montréal et Québec. Et dans votre récit, vous précisez d'ailleurs que c'est à Québec que le groupe va avoir le meilleur accueil. Vous allez même jusqu'à dire que, et je cite, « Jamais en Amérique, la musique de Gentle Giant n'a été autant appréciée que ce soir d'octobre à Québec. » Comment expliquez-vous cet engouement pour ce genre musical à Québec, ce fameux, on appelle « Mystère Québec »
Oui, mystère, je ne sais pas. Honnêtement, c'est sûr que... Il faut penser une chose, pour Gentle Giant, en tout cas, c'est sûr que pour eux, leur musique a été appréciée parce qu'aux États-Unis, ils faisaient la première partie de Black Sabbath. Alors, on peut-tu dire que bien souvent, ils étaient très mal accueillis par les fans de Ozzy Osbourne.
Et, ça a fait le même genre musical, en fait.
Le même genre, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc là, ils étaient à Québec en vedette. On avait William D. Fisher, un groupe de Québec, qui jouait en première partie. C'était super bien. C'était un très beau complément au programme. Et l'engouement musical... pour cette mouvance du rock un peu qu'on appelle progressif, il était à Québec fort. Je pense qu'il était présent à Québec. Il était présent aussi ailleurs au Québec, un petit peu. Mais c'est sûr que cette soirée-là, on avait toutes les composantes pour que ça soit un show, un spectacle mémorable. Il y avait la salle, l'artiste, puis pour le public, le prix du billet, puis le fait que ça soit une salle archi-comble, puis tout ça, le sous-sol du pavillon Polac, là, qui était l'ancien pavillon, maintenant qui est le pavillon Desjardins, là, tout ça, c'était une salle un petit peu très intime. Fait que c'est sûr que ça donnait une atmosphère extraordinaire. Les bons groupes qui se sont présentés là ont vraiment... était toujours très bien accueilli. Ça fait que ça donnait quelque chose un petit peu d'unique. Je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné comme ça, ces groupes-là. Peut-être parce que Pink Floyd était venu un an avant, puis qu'il avait déjà semé une petite graine. Je pense qu'il y a eu un paquet d'hasards. Moi, les mystères, je ne crois pas trop, mais je pense que les hasards, des fois, s'accumulent et font bien des... amène des résultats étonnants. Il y avait aussi un terreau de musiciens, de bons musiciens à Québec, qui étaient capables de faire la différence entre une musique un petit peu garochée puis une musique un petit peu qui arrive tout d'un coup puis qui est plus élaborée, si on veut. Et c'est tout ça faisait en sorte que pour une petite ville, Québec avait quand même... un lot de gens connaisseurs qui pouvaient apprécier toutes sortes de styles musicaux, mais en autant que l'artiste était intègre et qu'il était que c'était vraiment un artiste, que c'était pas juste un produit commercial. Puis les gens faisaient un peu la différence entre ça. Et puis il y avait aussi LS Radio qui a joué un rôle important en diffusant beaucoup de musique qui... T'sais, ils ont accepté de sortir du cadre commercial des chansons de 3 à 4 minutes et demie pour, de temps en temps, faire jouer du Gentle Giant ou du Genesis ou peu importe, ou du King Crimson, à des heures d'écoute, pas seulement à partir de minuit le soir, là, durant la nuit, mais à des heures où il y a un peu plus de public, etc. Donc, il y a eu tout ça, finalement, je pense qu'il est arrivé. Puis il faut dire qu'on travaillait fort. On allait passer des longues heures d'installation de radio à faire jouer des albums, à faire tirer des billets quand on avait ou tirer des albums quand on réussissait à en avoir quelques-uns. Donc, c'était une combinaison. Maintenant, les spécialistes de la musique peut-être pourront peut-être expliquer pourquoi le rock progressif a été plus populaire dans les pays européens puis dans les pays que dans certains pays anglo-saxons. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de... Il peut y avoir un paquet de facteurs.
Oui, tout à fait. Ouais, je pense que c'est plutôt, comme vous dites, un amalgame de raisons qu'on peut expliquer ce fameux mystère-là. Mais Cosmos va avoir quand même contribué à, je crois, la démocratisation de la musique rock progressif à Québec. Vous avez entre autres produit Genesis au Grand Théâtre de Québec en mars 1973, dans une époque où le Grand Théâtre de Québec n'était pas habitué de recevoir, disons, des spectacles rock. C'était plus classique, plus conservateur. Est-ce que votre groupe a permis de démocratiser les concerts rock, mais aussi les différentes salles de Québec?
Ouais, c'est drôle. C'est une bonne question. C'est drôle parce que c'était pas notre objectif au départ. On voulait éviter les salles trop chic, tout ça. Puis avec Genesis au Grand Théâtre, on s'est pris, on était dans une impasse parce que là, tout à coup, Genesis était disponible pour une date. Et c'était là où j'avais, il y avait seulement le Grand Théâtre de libre. Alors on s'est dit, OK, on y va. Mais disons que ça a été assez, assez unique comme organisation, parce que c'est sûr que là, on a amené au Grand Théâtre un public qui n'avait jamais vu là, des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans. C'est, même pour les spectacles de Charlebois, c'était des gens de mon âge. Nous, on avait 22 à cette époque-là. Et c'était plus des gens en haut de la vingtaine, puis des fois de la trentaine. Mais là, tout à coup, là, c'était un public complètement différent, complètement nouveau qui arrivait là. On a mis les billets dont un certain Robert Lepage, qui était dans la salle ce soir-là, et d'ailleurs qui a fait un très beau témoignage dans le livre sur son impression, sur ce qu'il a ressenti à la vue de ce spectacle-là et à l'écoute de ce spectacle-là. Alors, je ne sais pas, oui, démocratiser probablement. Je pense qu'il y a deux générations qui se sont rencontrées, puis... Et c'est sûr que le public des spectacles rock a dû quand même apprendre à se comporter différemment dans une salle comme le Grand Théâtre que dans un aréna. Et ça, ben, disons que ça a pris... ça a été dur les premières fois, mais ça s'est ajusté. Puis après ça, ben oui, effectivement, il y a eu un coût à payer pour ça. Nous, ce soir-là, ça a représenté l'essentiel de nos profits parce que il y a eu certains petits dégâts, certaines brûlures à l'équipement de la salle, là, par inadvertance. Et disons, mais il reste qu'après ça, ben, le public a réalisé que s'il voulait avoir encore des spectacles au Grand Théâtre, ben, il fallait qu'il modifie son comportement. Puis les gens l'ont fait et après ça, ben, il y a eu une série de super spectacles dans cette salle-là, qui était formidable pour l'acoustique. Si vous aviez vu la face de Peter Gabriel quand il est rentré sur la scène, puis que la salle, là, les musiciens de Genesis, ils n'en revenaient pas.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant dans le livre. On apprend que c'est vous qui confirmez à Peter Gabriel. Non, la salle est sold out, il n'y a plus un billet, puis il n'en revient pas de voir que les gens de Québec aiment Genesis à ce point-là, puis que c'est populaire dans cette ville-là. Il y a de la misère à comprendre ça, alors que partout en Amérique du Nord, Genesis n'est pas encore aussi populaire qu'ils le sont à Québec. Évidemment, votre compagnie de production est en fonction durant les années 70, durant la première moitié des années 70, une période particulièrement effervescente pour la musique québécoise. Quelle était la réflexion du groupe au artistes québécois et à la place qu'on devait leur accorder dans vos productions?
Ah, pour nous, c'était un petit peu un incontournable. Même si on n'avait vraiment pas d'argent souvent pour engager un groupe québécois, souvent pour faire la première partie, on le faisait parce que on pensait que c'était important que nos groupes puissent profiter, un, de l'équipement sonore qui était sur place, qui était de qualité. Quand on faisait venir un groupe, ben, il y avait quand même un système qui était mieux que ce qu'ils utilisaient dans leur pratique courante. Puis, avec Long John Baldry au Pavillon Polac, on avait fait venir un groupe montréalais qui s'appelait Joe Tree. Et ce groupe-là avait au clavier un certain Claude Mégaud-Lemelé, qui est devenu membre de Nécessité de Pollen et chef d'orchestre de Céline Dion. Alors, disons que ben non, on a essayé de faire ce qu'on pouvait à travers notre orientation qui était plus faire venir des groupes de rock progressif autant que possible, mais des fois on divergeait aussi. Et on a même, à un moment donné, il y a eu un groupe qui a été vraiment lancé par Cosmos, qui s'appelait Pollen, et qui regroupait entre autres Claude Mégot-Lemay, Tom Rivet, et des musiciens qui sont devenus après ça des musiciens importants avec Uzeb, un autre avec Claude Dubois, etc. Donc, Cosmos, en fait, même Pollen, c'était un petit peu le rêve de Cosmos de dire, ben écoute, si on était capable d'ouvrir un certain marché pour des groupes anglais, ben ça serait le fun de travailler avec des groupes d'ici, puis peut-être leur ouvrir le marché ailleurs en Europe ou en Angleterre. Il y avait un rêve là-dedans qui était là. Et puis aussi avec Alain, qui lui, Alain Simard, qui était avec nous dans l'époque Cosmos, qui était gérant de Nécessité, puis qui était gérant aussi de Raoul Duguay, puis tout ça. Donc, on incorporait assez souvent là, des artistes comme ça. On a fait Plume la Traverse en première partie de Gentle Giant à Montréal. tout un mélange. Mais des fois, on avait des combinaisons qui fonctionnaient mieux. Mais non, c'est sûr que pour nous, c'était important d'ouvrir la porte un petit peu à ces groupes-là, Manège, Slush, Nécessité, etc. Incubus, qu'on a fait venir au Palais Montcalm, ensuite au Festival d'été aussi, en première partie de Cactus, puis tout ça. On pensait que ça faisait partie un peu de notre mandat, même si on savait qu'à toutes les fois, ben, c'était pas ça qui faisait rouler, mettons, qui nous permettait de faire un spectacle un mois plus tard ou trois semaines plus tard, disons. Là, ça. Mais c'était vraiment... ça faisait partie un peu dans l'ADN de Cosmos aussi, oui.
Oui. Et évidemment, à travers toutes ces productions-là, le temps passe. Et rendu en 1975, vous remettez de plus en plus votre place dans le groupe Cosmos en question. Vous demandez si vous voulez encore vivre le rythme de vie que Cosmos impose. Mais avant que vous quittiez, vous coproduisez un spectacle de Pink Floyd à l'Autostade de Montréal qui est le plus gros spectacle rock jamais produit au Québec. Et la seule question que je trouve pertinente et que j'ai le goût de poser, c'est comment c'était?
Ouf! C'était assez extraordinaire. Et en fait, c'était le plus gros spectacle rock jamais présenté au Canada.
OK.
C'était vraiment... Il y avait à peu près 45 000 personnes. C'était en plein air. C'était assez spécial. Et disons que... Puis ce qui est plus drôle, c'est que ce spectacle-là s'est organisé sur un coup de bluff monumental de Cosmos. En fait, sinon, il n'aurait jamais eu lieu. Ça a été une organisation de dernière minute. On a fait ça vraiment, ça c'est en deux mois. Et puis, on a coproduit avec la grande agence de Montréal. On a eu, on s'est séparé un peu la production. Ça a quand même bien fonctionné. On avait chacun nos tâches. On a discuté avec le gérant du groupe beaucoup. Bien, évidemment que la philosophie de Cosmos, c'était de mettre les billets toujours le plus bas possible. Ouais. Ben, pour faciliter l'accès. Alors là, ben, on a réussi à faire baisser de 10 $ à 8 $ le coût d'entrée. Et c'était quand même pas pire. Mais ça a contribué sûrement au succès. Et le concert en soi, ben, écoute, il y a un petit témoignage d'André Demers dans le livre, André est un musicien de Québec, qui est assez révélateur là-dessus. Mais juste à penser que dans la même dans le même spectacle, dans la même prestation, Pink Floyd a livré l'album Wish You Were Here en entier, en première partie. Dark Side of the Moon en entier, en deuxième partie, puis est revenu en rappel avec la pièce Echoes de Miller.
Incroyable.
Tu regardes ça, puis tu dis, Mais quelle générosité dans le groupe. Moi, je pense que oui, ça fait un groupe qui est généreux pour faire ça. Et en plus, on a eu droit à un vrai... je me rappelle plus si c'était un lever ou un coucher de lune en arrière de la scène, la vraie lune. Et on peut dire que c'était le... pour moi, c'était l'apothéose un petit peu de ce qu'on pouvait faire. Puis en même temps, je trouvais ça extraordinaire. Puis je me disais aussi, bon, ben pourquoi faire encore plus gros, plus grand?
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis justement, vous en parlez un petit peu, on dirait toujours que c'est autant dans la première partie de Cosmos que dans la deuxième, on dirait que l'objectif Pink Floyd amène un nouveau changement dans la dynamique de groupe. Donc après ce spectacle-là et d'autres un petit peu plus difficiles, vous décidez de vous retirer finalement du groupe Cosmos et le groupe Cosmos prendra fin en 1976. Pour terminer l'entrevue, M. Maltais, avec le recul, quel est l'héritage aujourd'hui de Cosmos pour la scène culturelle du Québec, particulièrement pour la ville de Québec? Est-ce que Cosmos a changé de quelconque façon la manière de produire des spectacles dans la province?
J'aimerais dire oui, mais je ne le sais vraiment pas. C'est difficile à dire. Mais disons que oui, peut-être que... je pense que les producteurs anglophones ont été plus réceptifs à ce que désirait le public francophone. Je pense que Cosmos a servi à ça. Il a illustré que les goûts culturels pouvaient être différents. Et il a aussi, en intégrant des groupes francophones qui faisaient de la musique rock aux premières parties de spectacle, bien, ça a permis à des groupes francophones d'être de faire des premiers spectacles au Forum, puis dans des grosses salles. Et ça, ben, c'est quand même quelque chose qui a été bien. Et finalement, ben, je ne sais pas, il y a beaucoup d'anciens Cosmos qui se sont investis puis qui ont déclenché des productions et des organisations qui ont fait honneur au Québec après ça. Alors, je pense que oui, on a peut-être changé des petites choses, mais je ne sais pas, je suis mal placé pour dire plus que ça.
Alors, je crois que vous êtes très humble et je pense que lorsqu'on lit l'ouvrage, on se rend compte que vous avez certainement permis à un jeune public d'accéder à des spectacles et je pense que ça l'a formé en eux ce goût de la musique-là et ce goût d'en découvrir de la musique plus nichée, plus particulière, et ça les a sûrement suivis tout au long de leur vie. Et malheureusement, c'est déjà le temps de clore cette émission. J'aurais pu poser plein d'autres questions à M. Maltais, mais malheureusement, le temps file. Merci beaucoup, M. Maltais, de nous avoir accordé cette entrevue. Ça a été un plaisir absolument incroyable. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Cosmos, une aventure québécoise au temps du rock progressif, aux éditions Septentrion. Merci beaucoup, M. Maltais.
Merci à vous, ça a été très agréable.
Merci beaucoup. Donc, enfin, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado-diffusion dès 19h30 sur le site de Chiz. Mon nom est Marc-Antoine Belzile et je vous invite la semaine prochaine pour une émission de 3600 secondes d'histoire et on se quitte en musique avec Gentle Giant, Nothing at All. Bonne soirée. Pass by with much more than a kiss. Ah, this is a girl who had everything. Fine, she's nothing. Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix. C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4965. 418-903-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le bon!
Le vendredi 7 mai, 19h30, Beau Rempart amorce la deuxième ronde des séries éliminatoires 2021 en affrontant les Saguenayens de Chicoutimi dans l'environnement protégé du Centre Vidéotron. Ne manquez pas l'avant-match dès 19h15 en compagnie de Rick Loutier. La série Rempart contre Saguenayens, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur chiz.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
So surprised, and the oceans flowed through your blue-gray eyes, and I stood and gazed through hot summer days. So tell me, how do you feel?